Décryptualité, semaine 4 de l'année 2022. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour le sommaire ?
Un petit sommaire, mais aux oignons. Bon, avec quelques sujets qui reviennent. Alors, la semaine dernière, on n'a pas fait, mais là, justement, on va essayer de couvrir un petit peu tout ça.
Nouvelle République, logiciel libre, Solix fête ses 20 ans à Romorantin. Et un article de la rédaction.
C'est le Linux en Sologne. Et effectivement, ça met en avant une association locale qui travaille à du logiciel libre, des formations, et essayer de sortir un petit peu des GAFAM, donc des gens plutôt sympathiques. Allez jeter un œil si vous êtes du coin.
Et donc, bon anniversaire, Solix. Next Impact, une sénatrice veut étendre le contrôle parental à la française aux éditeurs d'OS, un article de la rédaction.
Alors, c'est un sujet compliqué, ça parle de porno, parce que finalement, c'est un petit peu ça dont il s'agit, et en fait, bizarrement, à cause du porno, on pourrait ne plus avoir de logiciel libre, ou en tout cas avoir des blocages sur les ordinateurs préinstallés avec du logiciel libre, parce qu'on imposerait dans la loi à avoir des outils de contrôle de ce qu'on fait avec un ordinateur, pour ne pas permettre aux enfants notamment d'aller sur des sites porno. Et donc au nom de ce genre de loi-là et de ce genre de mécanisme-là, on empêcherait d'avoir un ordinateur avec du libre.
Oui, oui, alors porno ou autre chose, hein, les parents galèrent pour contrôler le temps sur les écrans de leurs enfants. Et il y a les réseaux sociaux, hein, on peut voir à peu près tout et n'importe quoi. Archimag, la science ouverte en France, chiffres et état des lieux de l'open access. Un article de Bruno Le Texier.
Plutôt intéressant, je ne me rendais pas compte, mais il semblerait qu'en France, on soit un peu à la pointe des publications des articles scientifiques. La moitié des articles scientifiques sont diffusés de manière ouverte, sans passer par les grands éditeurs de journaux, ces choses-là. Alors je ne connais pas bien le détail, en plus l'article est payant, donc on peut voir que le début. Ça n'empêche, c'est plutôt sympa et ils mettent en avant le côté proche du libre hein, parce que vraiment on veut permettre à tout le monde de mettre les mains dans la science. C'est plutôt intéressant. Aaron Schwartz avec nous, il y a quelque chose de motivant.
Numérama, LibreOffice, Mastodon, l'UE offre 200 000 euros pour sécuriser certains logiciels libres. Un article de Julien Lausson.
Alors, c'est plutôt la grosse nouvelle qui nous est déjà tombée la semaine dernière et qui parle de logiciels comme donc, LibreOffice, Mastodon, Odoo, CryptoPad, Leos. Vous n'en avez pas forcément entendu parler à l'autre bout du fil, mais nous, on les connaît un petit peu, ces logiciels. Mastodon, par exemple, c'est un réseau social libre. Et donc, ces logiciels sont utilisés par l'Union européenne, semblerait.
Oui, et par nous, hein, on est sur Mastodon aussi.
Et l'Union européenne s'est rendue compte quelque part qu'elle utilisait ces logiciels-là et qu'il y avait plein de failles potentielles qui pouvaient exister et qui existent et qui sont diffusées et utilisées, bah, par exemple, par d'autres pays pour attaquer ou par des hackers pour attaquer des institutions ou des entreprises, ou n'importe qui utilise ces logiciels-là, ça peut poser des problèmes. Et pour essayer de remédier à ces problèmes, ils ont proposé une sorte de bourse aux failles.
Des primes.
Voilà.
En anglais, c'est Bug Bounty. Bounty, comme Bounty Hunter en anglais, c'est le chasseur de primes. Hein, donc, c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils ont déjà mené des campagnes sur d'autres logiciels. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que le montant maximum qui est donné sur cette campagne-là est plus faible que la campagne d'avant.
Là, ils peuvent monter jusqu'à 5000 euros, il semblerait.
C'est ça, voilà. Et avec un 20% de bonus, si la personne arrive avec un patch, donc une correction pour le trouver. Donc, c'est sympa. 200 000 euros, c'est pas une somme colossale. Hein. À l'échelle de l'Union européenne, ça va. Mais ça a le mérite d'exister et c'est quand même des aides utiles.
Alors, on sait que c'est un mécanisme qui est utilisé par pas mal d'entreprises et que parfois, ça peut rapporter de l'argent. Il semblerait que dans certains contextes, on puisse gagner jusqu'à 1 million d'euros pour une faille qui est transmise à son éditeur, à son fabricant, on va dire. On sait aussi que, bah oui, les failles, elles ont des grosses valeurs potentielles sur le marché noir pour les mafias et pour certains pays. Parce qu'on appelle ça les zéro day, les jours zéro, c'est les failles que personne ne connaît encore. Et quand on l'utilise, au moment où on l'utilise, c'est au moment où, en quelque sorte, on révèle sa carte. Et avec elle, bah, puisque personne ne la connaît, il n'y a pas encore de protection et on peut outrepasser des firewalls, des protections usuelles et on peut rentrer dans des systèmes de manière assez profonde, assez forte. Et on sait que les zéro day, ça a une valeur qui est assez phénoménale, c'est quasiment des armes de guerre voilà. Et que ça a été utilisé par les Américains dans Stuxnet, par exemple, où ils avaient attaqué l'Iran avec plusieurs failles zéro day en même temps. Il y a des laboratoires de sécurité en général qui s'intéressent à cela et qui vont travailler vraiment à trouver des failles. C'est leur boulot, leur passion, j'espère. Bah, au moins, ils sont payés, ils ont un revenu qui leur revient grâce à ce travail. C'est un travail qui est assez ardu. Hein. J'ai un peu fait d'audit de sécurité. Je peux te dire, on s'amuse pas toujours. On est parfois mis dans un petit bureau au noir, à l'écart de tout le monde, parce que on est là pour juger. Et donc, être capable d'être payé, de remonter ça, c'est très positif. Ça permet de mettre en avant les white hats, contrairement aux black hats, donc les chapeaux blancs, les hackers, qui sont un petit peu des chevaliers blancs qui sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer.
Alors ça fait écho au sujet qu'on a évoqué il y a 15 jours et un peu avant. Il y a pas mal d'éléments qui pointent dans cette direction, qui sont les questions des financements des projets libres. Même si c'est bien effectivement d'avoir ce pécule pour aller chercher des failles, ça veut dire aussi que ce n'est pas un financement pour les développeurs. Alors ils sont peut-être aidés par l'Union européenne par ailleurs, on espère. Mais on sait que en termes de financement de développement, on en a parlé depuis un mois assez régulièrement, c'est très inégal. Il y a certains projets qui sont bien financés, il y en a d'autres où ça va être une poignée d'individus, souvent un développeur tout seul, qui ne gagne rien. On avait parlé de cet individu qui avait saboté ses logiciels il y a 15 jours, parce qu'il en avait marre, et donc c'est une question de fond. Donc, puisqu'on a beaucoup posé ce sujet en se disant qu'il y avait peut-être effectivement une faille dans le libre, parce que le logiciel libre comme projet, c'est un projet très libertarien d'origine américaine. On parle beaucoup de liberté où on autorise à faire les choses. La partie argent, elle n'est pas vraiment abordée, on a le droit d'en vendre. Mais effectivement, on a cette idée que si le logiciel libre est un commun, vu qu'on a des très gros acteurs dans l'informatique, ça ne permettrait pas de s'y retrouver. Et effectivement, même s'ils gagnent beaucoup d'argent avec toute une série de librairies et d'outils, ils ne vont pas nécessairement les financer.
Oui, on pourrait même rappeler, à l'origine, donc c'était des hippies hein, dans les années 70, dans les universités américaines, largement. Et ces gars-là, effectivement, l'argent, c'était pas un but. Eux, ils voulaient faire évoluer la technique, s'entraider, réparer une imprimante, la faire fonctionner mieux. C'est un petit peu une des points de départ.
Et c'était des universitaires. Donc,
c'était largement des universitaires. Et donc, l'argent, oui, c'est vous vous débrouillez, quoi. Vous allez trouver quelque chose, vous ferez ça dans des entreprises, vous allez rendre des services, on va vous payer pour faire des logiciels à façon. Et puis finalement, on s'attendait à ce que la plupart des informaticiens, ils travaillent dans des entreprises et que ça fasse partie de leur boulot usuel pour répondre à des problématiques d'entreprise que de développer des logiciels et de les libérer ensuite.
Voilà, à l'époque, le logiciel libre a été pensé, et l'époque où un type comme Stallman, mais d'autres avec lui, pratiquaient l'informatique, c'était aussi quelque chose qui était beaucoup un truc d'universitaire et où il n'y avait pas encore un marché colossal dans le domaine professionnel. Donc, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80 et qui n'a fait que s'amplifier. Donc, le milieu n'était pas le même.
Mais le sujet reste d'actualité et on en a toujours parlé depuis des années et des années et des années. Il y a eu des livres blancs, il y a eu beaucoup d'articles et de discussions autour de comment on peut vivre de faire du logiciel libre.
Exactement. En marge de ces sujets avec ces primes et ces questions de financement, il y a également la faille sur Log4j qu'on avait évoquée il y a 15 jours. Et j'ai vu passer un petit article sur développer.com qui part du tweet d'un développeur qui s'appelle Daniel Stenberg, qui développe un truc qui s'appelle Curl, C-U-R-L, et qui rigole un petit peu parce qu'il a reçu un mail d'une très grosse boîte américaine qu'il ne mentionne pas parce qu'il dit qu'il leur a proposé un contrat. Mais lui, en gros, il fait un logiciel libre, donc il n'y a aucune garantie. Il le file gratuitement, donc il n'a signé de contrat avec personne. Et suite à la faille de Log4j, il reçoit un mail de cette boîte qui dit « Vous êtes un fournisseur », puisqu'ils utilisent son logiciel, sans le payer, sans contrat, et ils disent « Merci de nous dire si », et là il y a un questionnaire pour savoir s'il utilise Log4j, s'il a fait les mises à jour, etc. etc., etc. Et donc il leur a répondu « On n'a jamais signé de contrat, je vous dois rien, si vous voulez, envoyez-moi des sous, je vous répondrai ». Et avec ce constat un peu amer de dire « Mais en fait ils sont nuls, ils comprennent rien, parce que gros son logiciel n'utilise absolument pas Log4j, et que si les gens savent un peu ce qu'ils utilisent et ce qu'ils font, ils devraient être au courant qu'il n'y a aucune chance qu'ils l'utilisent. »
Ça a bien fait marrer tout le monde, hein, effectivement, de voir cette discussion autour de Curl, C-U-R-L, et d'imaginer qu'il y avait Log4j dedans, ça fait bien sourire.
Et donc le truc, c'est que moi qui ai bossé un temps chez un éditeur américain, le gros machin très corporate.
Très financier.
Très orienté sur le profit et le juridique. En fait, ce sont des boîtes qui marchent beaucoup face aux risques juridiques, hein, ces boîtes américaines. On connaît toutes les histoires de procès délirants. Et une réaction de ce type-là, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a eu un mailing automatique. Ils ont pris tous les gens à qui ils prennent des éléments et ils leur ont posé la question en se disant « Si jamais il y a un problème, on pourra dire qu'on leur a posé la question qu'ils nous ont jamais répondu. Donc, ce ne sera pas de notre faute. » Mais ça démontre que ce système, dès que ça commence à foirer, on est dans des histoires de responsabilité. Ces boîtes-là ne veulent pas payer, mais elles aimeraient bien avoir la garantie d'eux. Et donc, on se disait, alors, en toute modestie, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme système pour mieux financer le libre ?
Notamment dans un système où il y a des gros parasites. C'est plus des parasites à ce niveau-là, c'est des éléphants, les GAFAM. Et toi, tu as quand même une piste que tu aimes bien mettre en avant.
Oui, pour moi, il y a cette question de la régulation publique. Et effectivement, ça va un peu contre le principe du libre, qui est quand même très libertarien, comme on le disait tout à l'heure. Limite libérale, et certains libéraux aiment beaucoup le logiciel libre. Mais dans l'action publique, il y a cette idée d'aller compenser les faiblesses du privé. Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que toutes ces bibliothèques, tous ces outils, toutes ces briques logicielles ont un effet très bénéfique sur l'économie en général. Ça permet à ces boîtes de faire beaucoup de bénéfices, comme ça a été rappelé. Et ça leur permet aussi de se développer. Et ça permet à plein de boîtes, y compris des PME, à tout le monde de se développer rapidement, simplement et à coût plus réduit. Et donc, on pourrait avoir cette démarche en disant « c'est un bien commun, c'est un bien public ». Et donc, on veut que ça perdure, on veut que ce soit solide, on veut que ce soit fiable. On en veut peut-être plus pour qu'on puisse accélérer tout ça et que nos pays soient plus forts, plus réactifs, plus agiles. Et donc, on met en place des moyens de financer ça. Et on se dit, voilà, on veut un budget, non pas pour devenir riche ou avoir des gens qui deviennent millionnaires, mais en disant, bah voilà, si j'ai une brique logicielle où j'ai deux développeurs, eh bien, je veux 200 000 euros par an. Ça couvrira les frais généraux plus les salaires au prix du marché des développeurs de ces gens-là. L'objectif, c'est qu'ils soient payés pour leur boulot. Et donc, je peux faire la liste de tous les éditeurs ou tous ces gens qui vont utiliser ces bibliothèques. Surtout que, comme on l'a expliqué, il y a souvent des liens automatiques, donc on peut les lister. Il y a des outils qui permettent de suivre tout ça. Et on dit, bah voilà, vous êtes dans telle tranche de revenus, alors merci de payer tant. T'as pas besoin de leur demander des fortunes, mais de dire, voilà, c'est obligatoire de contribuer au bien public, puisque manifestement, la bonne volonté ne suffit pas.
Alors, moi, je suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que toi hein, sur le sujet, mais bon, bah, pourquoi pas hein. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, les taxes, ils en ont déjà sur le dos, et ils ont déjà de grosses capacités pour y échapper. Donc, optimisation fiscale, ce sont des spécialistes, et on va pas en ressortir. Et je préférerais qu'on essaye d'éviter d'avoir des géants aussi mastodontes que ça, des entreprises qui valent plusieurs trilliards de dollars, je trouve ça absurde. Et à mon avis, il y aurait d'autres moyens de casser ces mécanismes-là, éviter que notamment, et par exemple, ils fassent de la prédation sur les petites entreprises très agiles et très innovantes pour compenser leurs faiblesses, parce que les grosses boîtes bah, deviennent des gros géants, vraiment des pâteaux. Et puis, bah, on leur facilite la vie, on les aide à continuer à exister. Et à mon avis, il y a moyen de les casser à ce niveau-là. Et puis, tout simplement, bah, éviter qu'ils fassent de l'évasion fiscale comme ils le font aujourd'hui, ou de l'optimisation fiscale. Mais dans tous les cas, j'ai peur qu'il nous faille une chose pour faire évoluer le système, et qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est de la volonté politique. Si on n'a pas ça...
Oui, alors, pour moi, c'est cette difficulté de dire... Bon, il y a un problème de fond que tu évoques, et sur lequel je suis complètement d'accord, et de dire, bah, il n'y a qu'à régler le problème de fond, et le problème périphérique sera réglé. Mais du coup, bah, tu règles jamais le problème périphérique parce que les puissants ne tombent pas, ou très rarement. Donc c'est pour ça que moi, je pense que ce serait bien, mais aller casser les grosses boîtes, etc., etc., ça va être un peu compliqué. On pourrait imaginer autre chose qui serait, par exemple, de donner un label en disant « Oui, telle boîte est vertueuse parce qu'elle finance le libre, et elle a un label. Et si tu n'as pas ce label, alors tu es exclu de tous les appels d'offres publics, par exemple. »
Alors, si tu l'appuies ouais. sur les appels d'offres, effectivement, ça donne du mordant à ce label. Mais je sais qu'il y avait déjà des choses qui avaient été tentées. Il me semble que l'Adulact avait lancé des labels. Mais c'était peut-être pas pour les entreprises, hein, mais bon...
Mais si c'est pas engageant, si t'as pas une contrainte derrière, oui. genre ces boîtes-là, elles en ont rien à foutre. Enfin, je veux dire, on sait comment ça marche. Donc,
et pourquoi pas, ouais. hein, appuyer, mais bon, il faut encore de la volonté politique, hein, ça on n'y coupe pas, mais pourquoi pas appuyer les marchés publics avec un bon effort, une bonne volonté de la part de ceux qui répondent à ces appels d'offres. Pourquoi pas, ça peut être une piste à creuser.
En tout cas, si on veut faire ça, je pense qu'il y a un outil qui serait très utile, ce serait d'avoir un catalogue de biens communs informatiques en disant voilà la liste. Alors c'est un peu arbitraire forcément, tout le monde voudrait être dedans, mais d'être capable de dresser un catalogue de ces outils qui sont nécessaires, qui sont profitables, et de dire bah, voilà déjà voilà la liste minimale de ce qu'on aimerait voir financé.
Alors ça existe déjà, hein, la France en a, l'Europe en a, mais effectivement il faut les faire évoluer et aller dans ce sens-là. Bon, on résoudra pas le problème cette fois-ci, j'en ai peur, mais bah, on continuera à creuser sur le sujet. Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut tout le monde.